Merci, Patrick. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Dieu nous fait grâce encore d'écouter sa parole. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, ton serviteur David disait: enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Tel est notre désir ce matin, Dieu de bonté. Tel est notre souhait le plus profond de être enseigné par toi, être conduit par toi. Toi, la source de toute intelligence, toi qui connais les méandres de nos cœurs et toi qui en es capable de nous changer, de nous façonner à l'image de notre Sauveur, nous voulons nous présenter devant toi pour que tu manifestes ta bienveillance sur nous. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire tous, moi, le premier, que tu puisses nous révéler les secrets cachés dans ta parole, les merveilles qui se trouvent dans ta parole, pour que tu puisses conduire nos vies pour ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous continuons notre étude de la parole de Dieu dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Nous retournons au chapitre 10. La prédication de la semaine passée portait sur la deuxième partie de ce chapitre 10, donc chapitre 10 de 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul invitait les Corinthiens à fuir l'idolâtrie. Et dans cette partie, il nous présente quatre principes sur la liberté chrétienne, à savoir l'édification mutuelle plutôt que la satisfaction personnelle. C'est au verset 23. Il nous rappelle que tout m'est permis, mais que tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Faire le bon choix de ce qui édifie l'autre. Deuxième principe, les autres plutôt que soi-même. Au verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Troisième principe, c'est la liberté plutôt que le légalisme. Le trouvons dans les versets 25 et 27. Il est question de manger tous, tout, même ce qui a été sacrifié lors de cérémonies païennes, sans toutefois prendre part, participer, sans toutefois participer à leur culte idolâtrique. Et le quatrième principe, c'est l'abaissement de soi au niveau de l'autre, plutôt que la condamnation. On l'a entendu dans le message que Patrick nous a partagé sur Lévi, et dans la prière, dans la communauté, on a tendance à juger l'autre, plutôt qu'essayer de l'écouter. L'abaissement de soi au niveau de l'autre, plutôt que la condamner. Nous continuons par les trois derniers versets de ce chapitre, donc le verset 31 jusqu'au premier verset du chapitre suivant. Dans ce texte, nous trouverons deux autres principes, je les annonce, dans lesquels se trouvent, se résument les quatre principes premiers que nous venons de citer si haut. Je vous invite à lire encore ce passage 1 Corinthiens, verset chapitre 10, verset 31 jusqu'à 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Je répète ce verset, ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, dit Paul. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Un texte court, mais un texte qui regorge beaucoup d'enseignements. Ça ne vous a pas échappé dans le verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et vous voyez l'inscription qui est au-dessus de ma tête, qui est marquée en grand. Gloire à Dieu. Ce premier principe que nous trouvons dans ce verset, tout faire pour la gloire de Dieu, autrement dit, être motivé par ou aspirer à une vie qui glorifie et adore Dieu. Un grand principe, donc, une vie qui est motivée par la recherche de la gloire de Dieu. La question qui se pose, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, nous y trouvons la rencontre de Moïse avec l'Éternel. S'il y a une personne qui pouvait, du moins qui a côtoyé de près Dieu, je pense que c'est Moïse. Il est bien disposé pour au moins nous donner les éléments qui peuvent nous éclairer, nous expliquer ce que c'est la gloire de Dieu. Et dans sa rencontre avec Dieu, lorsqu'il était monté sur la montagne de Sinaï et rencontrait l'Éternel, au verset 18, Moïse pose la question à Dieu. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Il souhaitait voir la gloire de Dieu, comme nous tous. Au verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je vais faire grâce et j'ai compassion de qui je vais avoir compassion. » Et les éléments de réponse à cette question de Moïse, nous les trouvons au chapitre 34, verset 5, toujours dans l'Exode, à sa question de « Faites-moi donc voir ta gloire », voilà ce que dit l'Éternel. Comment répond l'Éternel? L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Dieu répond à Moïse par ses attributs. La réponse qu'il donne à Moïse, il cite, il dit ce qu'il est. Nous voyons ses caractéristiques. Dieu est glorieux pour sa majesté. Dieu est glorieux pour sa bonté. Dieu est glorieux pour sa bienveillance. Notre Dieu est glorieux pour son amour, pour sa puissance, Nous trouvons sa gloire dans sa création, l'univers et tout ce qui y contient. Nous trouvons la gloire de Dieu dans sa fidélité. Il est glorieux pour sa fidélité. Notre Dieu est glorieux pour sa merveilleuse présence parmi ses enfants, etc., etc. C'est les qualités de Dieu qui se referment dans cette gloire, dans sa gloire. Et la parole de Dieu nous décrit la gloire de Dieu comme étant grande. C'est dans le psaume 138, verset 5. La gloire de Dieu est éternelle, disait aussi David dans le psaume 104, verset 31. La gloire de Dieu est riche dans ce qu'il nous a donné en Christ. Nous le trouvons dans Éphésiens, chapitre 3, verset 16. La gloire de Dieu est élevée. Dans le psaume 8 et le psaume 113, pardon, verset 4. Oui, la gloire de Dieu nous dépasse et dépasse notre entendement. Pourquoi alors, pourquoi devrions-nous viser, chercher, poursuivre cette gloire de Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi rechercher cette gloire? Tout d'abord parce que Dieu en est jaloux. Dieu est jaloux de sa gloire. Dans sa parole, à travers son prophète Ésaïe, au chapitre 42, verset 8, l'Éternel dit ceci à travers Ésaïe: « Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Vouloir ou pas, nous devons gloire à Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Il ne permettra pas que je mette l'idole dans ma vie. À lui seul soit la gloire, il en est jaloux. La gloire de Dieu doit faire objet de crainte. Nous avons un Dieu majestueux. Cela devrait nous faire à craindre cette gloire, non pas dans la crainte d'une menace quelconque, mais non, la crainte dans l'obéissance de celui qui nous a créés, qui nous aime, qui est au-dessus de tout. Et en Ésaïe, toujours au chapitre 59, verset 19, il dit ceci: « On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. » C'est un ordre. Dieu ne peut pas partager ce qu'on lui doit, parce qu'on lui doit tout. Dans ce monde où la recherche du profit nous guette, on peut se poser la question pour nous, ce que nous apporte cette gloire. Et j'ai vu que notre bien-être au quotidien, je dirais même notre survie, en dépend. Notre bien-être, ton bien-être, mon bien-être, dépend de cette gloire de Dieu, ces caractéristiques que nous avons citées, sa fidélité, sa présence, sa puissance, et son amour, son pardon, font partie de ce qui fait notre bien-être au quotidien. Et cette analyse peut nous faire voyager dans le temps, que ce soit dans le passé, si nous prenons de nos ancêtres et dans la foi, là où Dieu, on parle de Dieu, de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on verra que leur survie, leur bien-être dépend de la présence de Dieu, de sa bonté dans leur vie. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu se promenait encore à côté de Adam et Ève, ils étaient en paix. Ils entendaient la voix de Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Sa présence était au quotidien. Et ils étaient en paix. Ils étaient en paix. En Genèse chapitre 3, c'est là où on nous parle de cette présence. Combien ils étaient heureux d'être dans le jardin d'Éden, dans la présence du Très-Haut. Nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob ont tous été au bénéfice de la gloire de Dieu dans toute sa richesse. C'est Dieu lui-même à travers Moïse qui est allé tirer son peuple, nous le savons, en Égypte, de l'esclavagisme en Égypte et le diriger vers la terre promise. Même dans le désert, son peuple dépendait de la gloire de Dieu. Il les a accompagnés. En Exode chapitre 40, verset 35, on nous parle de cette nuée qui couvrit la tente de leur rencontre et la gloire de l'Éternel qui remplissait le tabernacle. Dieu était toujours parmi eux. C'est ce que Moïse lui a demandé. « Seigneur, monte avec nous. Monte avec nous. » Parce qu'il savait bien que tant que Dieu dans sa gloire serait parmi eux, personne ne les empêchera d'entrer dans la terre promise. De tout leur déplacement, la colonne de feu et la nuée étaient toutes les deux une manifestation de la gloire de Dieu. Jour et nuit, pendant 40 ans, Dieu a été présent dans sa gloire et le peuple était protégé. Arrivé dans la terre promise, Dieu n'a jamais cessé de les manifester sa gloire. Chaque fois que le peuple essayait de s'attacher, de se consacrer à Dieu, Dieu répondait présent. Et c'était pour leur bien. Dans 2 Chroniques, au chapitre 5, verset 13, c'est le moment où on est en train de consacrer le temple que Salomon venait de construire. Ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer, louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Alors, le temple et la maison de l'Éternel furent remplis d'une nuée, tellement que les prêtres ne savaient pas y entrer. Pendant cette période où le peuple était attaché à Dieu, ils ont vu sa gloire et ils étaient en paix. Les prophètes témoignent de cette gloire de Dieu. Ézéchiel en parle au chapitre 8, verset 4. Il parle de la gloire de Dieu d'Israël qui était là, tel qu'il l'avait vu en vision dans la vallée. Ici, j'essaie de faire le parcours de cette histoire qui est la nôtre, pour voir combien Dieu a toujours manifesté sa gloire à ses enfants et que c'était pour leur bien. Mais force est de constater que chaque fois que Dieu offre sa gloire à l'homme, celui-ci lui retourne le dos. Dans le jardin de Dan, Dieu vient, dit, « Je vous offre ma gloire. » Adam et Ève refusent et préfèrent le mensonge du diable. Vers la terre promise, souvenez-vous de l'image où Moïse descendait de la montagne après la rencontre avec Dieu. Il brillait de la beauté de Dieu. Dieu se disait, « Peut-être si je... Ce peuple voit ma gloire à travers Moïse, ils s'attacheront à moi. » Mais plus tard, ils n'ont pas tardé encore à répondre par un non en choisissant l'idolâtrie. Dieu a utilisé le tabernacle, ça n'a pas marché. Dieu a utilisé le temple en manifestant sa gloire, comme on l'a vu dans au moment de l'époque des rois. Et là non plus, les gens préféraient autre chose. Ils sont allés chercher Baal et d'autres dieux. Et conséquence, c'est ce que nous trouvons dans le livre de Osée au chapitre 8, premier verset. Il dit ceci en bouche, la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Et au verset 8, Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. C'était l'exil, la déportation, parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ça nous montre combien ces hommes, leur paix, leur bien-être dépendaient de la présence de Dieu. Leur joie, leur paix avec les voisins d'autres nations dépendaient à la présence de Dieu dans sa gloire. Mais Dieu, dans sa bonté, sa patience et son amour, ils sont insondables et illimités, et inépuisables même. Dieu lui-même va encore une fois chercher le moyen pour sauver ceux qu'il a choisis. Ça m'a fait penser à ce qu'il dit en Ésaïe, chapitre 43, verset 24. Dieu énumère les péchés d'Israël. Il les accuse effectivement de ne pas prendre compte de tout ce qu'il a fait. Et à un certain moment, il dit ceci, « Tu m'as seulement tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes fautes. » Au verset 25, dans ce chapitre, Dieu dit, « Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. À cause de moi-même, je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Car Dieu compatissant, parfois, même aujourd'hui, il faut dans nos caractères, dans nos comportements, il ne trouve rien, mais il regarde le Seigneur. Et il te dit, pour Jésus, je te pardonne, parce que tu es en Christ. Et dans Ésaïe, il dit à ce peuple, à cause de moi qui est saint, que vous êtes pécheurs, je vais quand même vous pardonner, parce que rien, normalement, n'est présentable pour vous, ne plaide en votre faveur. Je devrais vous détruire, mais à cause de moi, je trouve une raison de te pardonner. Quelle bonté. De là, Dieu va changer la formule. Désormais, sa gloire ne résidera plus dans les murs construits par la main des hommes. Il a essayé dans le jardin, on l'a vu, ça n'a pas marché. Dans le temple, ça n'a pas marché. Dans un homme comme Moïse, ça n'a pas abouti. Mais Dieu va manifester sa gloire désormais dans un corps humain. C'est ce que nous apporte l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, verset 14, il déclare ceci. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dieu, dans sa gloire, se manifeste lui-même dans le corps de Jésus-Christ. Ça change tout. La parole de Dieu nous parle de transfiguration de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeant, son vêtement devient d'une blancheur éclatante, et la nuée sortit d'une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Désormais, la gloire de Dieu réside en Christ lui-même, dans son corps. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, il va appeler Jésus le Seigneur de la gloire. Jésus-Christ est devenu le temple de Dieu. Il le dit lui-même dans l'évangile de Jean au verset 20, au chapitre 2, verset 21, pardon. Il parlait que lui, c'est lui le temple, qu'il est capable même de détruire ce temple et de le reconstruire dans 3 jours. On parla de son corps qui allait être crucifié à la croix et ressuscité après le 3e jour. Notre Seigneur est devenu le Shekinah, la présence de Dieu parmi son peuple. Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est associé également à cette gloire éternelle de Dieu, même pour le futur. En Matthieu, chapitre 24, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de gloire pour le jugement des nations. » La gloire de Dieu réside toujours dans le Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il revienne. Qu'en est-il avec nous aujourd'hui? Où réside la gloire de Dieu pour nous? Comment se manifeste-t-elle? Dans notre bâtiment où c'est écrit « Gloire à Dieu », non, Dieu, aujourd'hui, ne réside pas dans les briques, aussi beau que notre bâtiment est, mais Dieu ne réside pas dans ces briques. Il est dans nos cœurs, dans chacun de nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est en Christ que Dieu nous a manifesté de sa gloire. Colossiens, chapitre 1er, 27, nous dit ceci, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est par toi que la gloire de Dieu se manifeste, si tu appartiens à Christ. Chacun de nous fait partie, porte cette partie de gloire de Dieu. L'Église vivante, l'Église qui porte la gloire de Dieu, c'est les membres de cette Église qui sont remplis de Christ et de la gloire de Dieu. C'est ça qui fait qu'une Église manifeste la gloire de Dieu. C'est l'ensemble des vies qui manifestent la gloire de Christ ensemble où on trouve une Église vivante, une Église qui manifeste la gloire de Dieu. Désormais, nous sommes la marque réservée pour Christ, créée pour le célébrer, célébrer sa gloire, la gloire de la grâce de Dieu dont il nous a comblés en Christ. Plusieurs textes nous le rappellent, notamment la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er, verset 6 et 11 et 12, on nous dit ceci, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » C'est nous, c'est toi et moi, en Christ, qui sont appelés aujourd'hui à manifester la gloire de Dieu. Parce que nous appartenons à Christ. Parce que Christ, en nous, la gloire de Dieu se manifeste. Paul avait compris. Lorsque il a fait la prière pour, aux Éphésiens, la prière que Pierre nous a partagé la semaine passée lors de la présidence. Il prie dans cette prière parce qu'il a compris l'utilité d'avoir Christ dans sa vie et de pouvoir manifester cette gloire de Dieu, de pouvoir louer l'Éternel par nos vies. Il prie ceci, que les Éphésiens, que ce soit notre prière aussi ici à la rue du Moniteur, puissent saisir l'infinie grandeur de la puissance et de Dieu qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Que cette gloire de Dieu, que cette grandeur de Dieu dans sa puissance puisse se manifester dans notre vécu au quotidien. Dans notre passage, il y a un autre mot qui se met en évidence. Tout pour la gloire de Dieu, c'est ce mot tout, T-O-U-T. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors je me suis penché sur ce mot. Qu'est-ce que signifie ce tout? Très important, on peut passer à côté, mais c'est à travers toute une vie dans son entièreté que le Seigneur doit se faire glorifier. Une vie consacrée comme un tout. Il ne s'agit pas d'une vie compartimentée, dont un quart, si je ne suis pas gentil aussi, un quart est dédié au Seigneur. Autrement dit, je suis chrétien juste dimanche matin parce que c'est dans mes habitudes, mais tout le reste de la semaine, aucune relation avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce qu'il souhaite dans son mot tout. Il veut que ta vie, ma vie, le glorifie, glorifie le Seigneur quand tu es seul, quand tu es avec les autres, quand tu es à la maison, quand tu es en voyage, quand tu es dans la famille, quand tu es au travail, dans tes finances, comme dans tes projets. Je voudrais peut-être me parler moi-même pour ne pas, vous ne puissiez pas vous sentir visé. Oui, le Seigneur veut que ma vie entière puisse le glorifier. Dans chaque compartiment de ma vie, que je puisse agir pour la gloire de Dieu. Chaque compartiment. Que je sois le même lorsque je suis à la rue du Moniteur, qu'on trouve le même Olivier à Zemst, à Bruxelles, en Afrique ou ailleurs. Qu'on trouve la même personne dans mon comportement, tout seul ou ensemble, mais que ta vie reflète la gloire de Dieu partout et en tout. Pour résumer notre premier principe, oui, nous sommes appelés à tout faire pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à aspirer à une vie qui glorifie, qui adore Dieu, parce que Dieu est jaloux de sa gloire, il ne le partagera jamais avec quoi que ce soit. Sa gloire doit faire objet de crainte pour ce qu'il est, pour ce qu'il est capable de faire. Oui, notre bien-être dépend de la gloire de Dieu dans nos vies de tous les jours. Et il nous a créés pour l'adorer. Tu es là, je suis sur cette terre pour que ma vie puisse adorer le Seigneur. Deuxième principe, nous le trouvons au verset 32 de notre chapitre 1 Corinthiens, verset 10, chapitre 10, verset 32. « Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. » L'apôtre Paul nous met en garde que notre liberté chrétienne ne soit pas une cause de provocation inutile, mais droit, que ce soit de boire, de manger, de faire telle ou telle activité ne doivent pas être une occasion de chute pour ceux qui sont faibles dans la foi. Moi seulement, les autres, ça ne me regarde pas. Non. Il nous met en garde. Tout nous est permis. Tout ne nous est pas utile. Et on doit penser à ceux qui sont autour de nous. Dans ce verset, c'est pas pour rien que Paul parle des Grecs, des Juifs, de l'Église de Dieu. Les Grecs symbolisaient les païens non convertis. Et les Juifs, c'est le peuple d'Israël. Et l'Église de Dieu, c'est en effet les frères et sœurs que nous partageons la foi. Mais Paul parlait d'un tout. Nous sommes appelés à chercher le bien-être de tout le monde. Le bien-être de tout le monde. Nous sommes appelés à veiller à ce que chaque personne que je rencontre, je puisse le porter comme le Seigneur me le commande, avec amour, avec attention. Tout le monde. Donc un chrétien qui te dira que telle partie de la population ou cette culture-là, ça ne passe pas chez lui, il faut se poser la question s'il a bien écouté ce verset. En tant que disciples du Seigneur, Christ nous appelle à porter tout le monde. Notre amour doit dépasser nos limites d'entendement. Chaque personne à ma présence, Dieu m'appelle à lui manifester mon amour sans limite. Et c'est un appel pour nous tous. En tant qu'une église multiculturelle, et peut-être de classes sociales différentes, cette parole interpelle et questionne chacun de nous. Qui sont les bénéficiaires de mon attention et les dons que le Seigneur a mis à ma disposition pour les autres? C'est la question que je me pose personnellement, mais que tu peux peut-être te poser. Qui sont les bénéficiaires de tes dons et de bien que Dieu a mis à ta disposition? Suis-je orienté vers la personne de ma couleur de peau, de ma culture, ou ceux qui ont des moyens pour me rendre là pareil? Est-ce cela ma motivation? C'est une question que je dois me poser. Qui sont les personnes qui se trouvent sur ma liste de prières? Que le Seigneur nous éclaire lorsque nous disons que nous sommes des disciples, alors nous devons répondre à ces questions avec des lunettes du Seigneur, avec ce que nous dit la parole de Dieu. Était-ce facile? Avec les cultures, je dirais, parfois, ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur et son aide, tout devient facile. Et tant que je fais ce que je dois faire pour le Seigneur, alors le reste, c'est lui qui le fera. Le bien-être des autres, c'est un poste très important dans une église. Le souci de l'autre, frères et sœurs. Oui. Le Seigneur me demandera les comptes pour ta vie. Non pas parce que je suis ancien, mais parce que je me suis manifesté comme disciple du Seigneur. Alors, le Seigneur, je rendrai les comptes sur ta vie. Et surtout si on est ensemble. Donc, que le Seigneur nous éclaire dans ce domaine. C'est une source de bénédiction pour nous, vous savez. Tout ce que nous recommande la parole de Dieu, à la fin, c'est pour notre bien. à la fin, c'est pour notre bien. Parfois, on entend un témoignage, on a entendu un témoignage à la fin de l'année, quelqu'un qui disait, quand le culte se terminait, moi, je filais, je ne voulais parler à personne. Mais lorsque je me suis arrêté et que je me suis approché aux autres, alors j'ai bénéficié de leur amour et aujourd'hui ça restera pour toujours dans sa vie. C'est la même chose pour nous tous, vous savez. Oui, je pense qu'en dehors de l'Église, sauf si quand on n'est pas dans notre famille, on est au travail. Donc, les meilleurs amis que je devrais avoir, c'est ici. Les meilleurs amis que je devrais avoir, c'est dans ma famille spirituelle. C'était mon partage. Mais je sais que c'est là où notre Église, et chaque Église, puise sa force. Dans l'amour des frères et sœurs. Que Dieu nous aide et nous éclaire dans ce domaine. Au verset 33 de notre passage, l'apôtre Paul nous dit de faire comme lui, de faire comme lui. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Nous connaissons la parole de Dieu en Romains chapitre 12, verset 1, qui nous dit, verset 17, qui nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais ici, la parole de Dieu nous invite à faire un pas de plus, non pas seulement chercher la paix avec tout le monde, mais viser à complaire à tous et en tout. C'est un vrai objectif. Comment puis-je faire pour te rendre heureux? Mon objectif, c'est de complaire à tous et en tout. Bien sûr, l'apôtre Paul a mené une vie dévouée, extraordinaire, il n'y a pas beaucoup qui ont fait comme l'apôtre Paul qui nous conseille ici a fait, mais il nous demande à nous exercer à cet objectif noble, chercher la joie et le bonheur des autres, faire plaisir à tous et en tout. Il disait ceci au chapitre 9, verset 19 du même épître, que vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Au verset 21, bien que je ne sois pas sans la loi, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont dans la loi, il s'est fait faible pour gagner les faibles. Et l'objectif, je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Tout faire, l'humilité totale, un comportement vraiment qui dépasse nos orgueils personnels, mais pour que celui qui est en face de moi puisse recevoir l'Évangile. L'apôtre Paul nous invite à l'exercice de mener une vie de renoncement au service des autres, une vie d'un disciple de Christ. Il y aura toujours un sacrifice à faire, ça c'est sûr. Si tu dis que tu sers le Seigneur et que tu ne fais pas un sacrifice dans un domaine ou l'autre, alors tu dois te poser la question. Oui, c'est sûr. Si tu ne te prives pas pour faire la prière pour ton église, tu dis « je vais arrêter tout, au moins pour la prière, une fois par la semaine ou je ne sais pas combien. » Si tu ne te prives pas pour dire « au moins, je n'ai pas été à l'étude biblique, mais je vais consacrer le temps apprendre de Dieu, s'il n'y a pas un sacrifice pour une réunion de prière, ni pour renforcer l'équipe là où Dieu te donne les forces, si tu te bats pour venir au culte dimanche matin, alors tu dois te poser des questions. Il y a toujours un sacrifice pour celui qui sert le Seigneur. Vaincre la peur, d'ouvrir la bouche et de dire « Jésus est Seigneur » à celui qui est en face de toi, c'est un sacrifice. Il y a toujours un sacrifice pour celui qui sert le Seigneur. Il y en aura toujours. Parce que nous sommes au travail, parce qu'il y a une mission d'évangéliser pour laquelle le Seigneur nous a appelés, il y aura toujours un sacrifice. Et ça, on devrait l'inscrire dans nos vies au quotidien. Des excuses, on peut tous les trouver. Et il y en aura toujours, peut-être justifiées. Mais dans ta vie tout entière, si tu n'as pas un petit moment où tu te sacrifies pour le Seigneur, je ne juge pas. Je dis juste, questionne-toi sur l'amour que tu portes pour l'Évangile. Soyez mes imitateurs, en 1 Corinthiens, au chapitre 11, premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Dit l'apôtre Paul, maintes fois il l'a dit, comme un modèle de dévouement pour mieux annoncer l'évangile de Christ. Il a écrit aux Éphésiens, c'est un modèle, mais qui devrait nous inspirer. Philippiens chapitre 3, verset 7, c'est Paul qui parle, et il se permet de dire, soyez mes imitateurs, parce qu'il l'a fait. Mes qualités qui étaient pour moi mes gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je me considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Nous n'aurons pas d'excuses. Je ne vous demande pas de mener une vie comme celle de Paul. Il avait un don particulier. Mais lorsque nous entendons ce qu'il nous dit ici, ça veut dire que nous n'aurons pas d'excuses pour servir le Seigneur. Il dit qu'il le fait à l'image de Christ. Il prend le modèle à Christ. Il avait toujours écrit encore aux Philippiens au chapitre 2, il a rappelé pourquoi Christ est le modèle à suivre lorsque nous devons sacrifier quelque chose pour l'Évangile. Il nous rappelle ceci, chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Nous avons un modèle en termes de sacrifice. Nous avons un modèle en termes de dévouement. Chaque fois qu'on pensera que le Seigneur Jésus a quitté le ciel pour venir te sauver et me sauver, cela devrait nous encourager à dire, oui, c'est difficile, mais je vais y aller pour la gloire de mon Dieu. Oui, je suis fatigué, mais je vais y aller pour la gloire de mon Seigneur. Oui, ce n'est pas facile, mais je vais me consacrer pour la gloire de mon Jésus. Oui, la parole de ce matin nous invite à tout faire pour la gloire de Dieu. Tout faire pour la gloire de Dieu. Mettre tout en œuvre pour le bien-être de ceux qui sont à côté de nous. Comment acquérir une vie qui glorifie Dieu en pratique? Comment puis-je faire pour glorifier Dieu en tout? Je pense que la prière, dans laquelle on aspire au don précieux, le fruit de l'Esprit, est la base. Prie pour toi. Moi aussi, je prie pour moi. Le Seigneur est capable de susciter en moi les forces nécessaires pour que ma vie puisse l'honorer. Le Seigneur est capable de susciter en toi les forces nécessaires pour que tu puisses trouver les dons que nous trouvons en Galates, chapitre 5, verset 16. C'est un passage que nous connaissons. « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Et au verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi contre de telles attitudes. Il n'y a pas de loi. » On doit aspirer à ces qualités. Je dois avouer à mon Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de la douceur, j'ai besoin que tu m'accordes la foi, j'ai besoin que tu me fasses grandir pour l'amour à mes voisins, à mes prochains, j'ai besoin que tu me donnes la patience pour accorder la paix à ceux qui sont autour de moi. J'ai besoin de ça, Seigneur. » Quand on aspire à de telles choses, sûr et certain, le Seigneur te visitera et fera quelque chose. On devrait aspirer à ces belles choses. Comment rechercher le bien-être de ceux qui nous entourent? Se rappeler que c'est un devoir pour tout disciple de Jésus et prendre au sérieux cet appel en nous rappelant que nous avons été sauvés, nous avons été appelés pour servir. Et parfois nous prenons les choses à la légère. Oui, je suis juste, je suis chrétien. Je sers le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, servir le Seigneur? On doit prendre au sérieux ce devoir du bien-être de ceux qui sont à côté de toi. Oui, il y aura des manquements, mais au moins que tu t'efforces à dire, je sais que j'ai ce devoir d'aimer mes frères et sœurs pour l'avancement de l'Église. Travaillons notre amour au quotidien et prenons des initiatives dans ce sens. Moi, le premier, je dois aimer mon GSM pour appeler les autres. Prendre des nouvelles des autres. Je pense que ça commence par là. Je ne juge pas. Je dis moi le premier. Prendre des nouvelles des autres. Se soucier des autres. Ouvrir les portes de chez soi, inviter les autres. Vous me direz, le temps manque, mais au moins, sois sincère dans ton cœur si tu portes ce fardeau de dire, je vais unir les gens, je vais ouvrir les portes pour les autres. Priez ensemble. Priez ensemble. S'il y a une meilleure chose qui peut créer un lien pour le Seigneur, c'est prier ensemble. S'il y a un moment qui fait tomber les murs, et qui nous aide à puiser les uns les autres pour aller au ciel, c'est prier ensemble. On a vu dans des groupes de maisons comment on découvre l'autre et la richesse que Dieu a mis en lui, parce qu'on a ce temps ensemble. Parce qu'on a ce temps ensemble. Passer du temps ensemble avec tes frères et sœurs en Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu, nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 7. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ça ramène encore à Dieu dans sa gloire, Dieu qui est amour. Puisons dans cet amour de Dieu, aimons-nous sincèrement les uns les autres. Et vous verrez que lorsqu'on aura mené une vie qui glorifie Dieu en tout et partout, lorsqu'on aura cherché le bien-être de ceux qui nous entourent, sûrement on aura respecté les plus grands commandements que le Seigneur Jésus nous a laissés. En Matthieu, chapitre 22, verset 23, vous allez voir comment la parole de Dieu fait un lien, un tout. C'est le Christ, on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement ? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, dit le Seigneur Jésus, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ta vie glorifie Dieu, si ma vie glorifie Dieu au quotidien, alors je l'ai rempli à la fin de ma vie, je l'ai rempli le premier commandement. C'est sûr. Si je prends le bien-être de mes frères et sœurs au quotidien, au sérieux, alors je l'ai rempli, le deuxième commandement que le Seigneur nous a laissé. La parole de Dieu est vraie et complète. Je vous invite à la prière. Dieu de bonté, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu nous as manifesté ta gloire en Christ. Tu voyais combien nous étions faillibles, faibles, incapables même. Mais tu as placé Christ en nous, ton esprit en nous, pour que nous puissions avoir non seulement la vie, mais la vie en abondance. Nous voulons encore ce matin te consacrer nos vies, pour que toi seul tu puisses nous façonner. Je t'en prie, mon Dieu, tu connais chacun de nous, tu nous as invités pour nous parler, pour nous exhorter, pour nous édifier. Le garde chaque personne ici présente. Et toi qui connais nos manquements, édifie-nous, parle-nous, équipe-nous, pour que nos vies puissent rayonner de ta gloire. Fais grandir ton amour en nous pour que nous puissions aimer ton Église et toute personne que tu places en face de nous. Et que toi seul tu sois honoré aujourd'hui et pour toujours. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.